Le journal avec vous, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous vous le devons, bienvenue. Les mots d'Emmanuel Macron après le rapatriement de 184 Afghans hier soir. Un troisième vol doit arriver à Paris dans les prochaines heures, mais il reste des milliers d'Afghans terrorisés sur place, nous les entendrons. À Kaboul, où les talibans consultent pour former un nouveau gouvernement, mais la résistance pourrait bien s'organiser dans la vallée du Panjshir, au nord-est de la capitale, nous expliquera Julie Pietri. À suivre également, les soignants antillais débordés par l'épidémie de Covid-19, de nouveaux renforts sont attendus sur place, des renforts aussi en Polynésie française où le taux d'incidence flambe. L214 qui dévoile de nouvelles images insoutenables, c'est le témoignage d'un employé d'une exploitation dans l'Yonne qui a permis de lever le voile sur la maltraitance animale. Et puis la femme et François and the Atlas Mountain, deux des artistes attendus à la Route du Rock cette année, version itinérante.
À 7h45, une plume poignard, toujours digne, Serge Chalandon plonge dans le passé, c'est douloureux, c'est fort. Son père, du mauvais côté pendant la guerre, en parallèle le procès Klaus Barbie, enfant de salaud, publié chez Grasset, Serge Chalandon pour la rentrée littéraire, et au micro Inter dans un quart d'heure.
France Inter.
Quel avenir politique pour l'Afghanistan?
4 jours après l'arrivée au pouvoir des talibans, le président déchu a pris pour la première fois la parole depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il s'est réfugié. Ashraf Ghani doit négocier son retour en Afghanistan avec les islamistes au pouvoir, les talibans qui discutent aussi avec l'ancien président Hamid Karzai. Sur place à Kaboul, les opérations d'évacuation se poursuivent. Un deuxième vol affrété par la France a permis d'exfiltrer plus de 200 personnes hier, en grande majorité des femmes et des enfants afghans. Mais pour ceux qui restent, le sentiment d'abandon est énorme, Mathilde Hemi.
Mohamed raconte à Amer qu'il est peut-être l'un des derniers Afghans francophones coincés à Kaboul. Ancien étudiant à Sciences Po, il a travaillé pour son gouvernement, des ONG et la France à Kaboul. Il reste désormais cloîtré chez lui.
J'ai essayé de contacter l'ambassade de France pour nous évacuer. Vivre en Afghanistan, c'est pas sûr pour moi et ma famille. Un de diplomates m'a contacté et il m'a dit qu'elle peut pas faire quelque chose maintenant. C'est difficile d'avoir un autre emploi. Je cherche une autre option n'importe où. Je peux pas rester en Afghanistan du tout.
Notre président nous a abandonnés. La communauté internationale s'en va, poursuit Mohamed. Et nous restons avec la tragédie ici. Même incertitude sur l'avenir pour ce médecin afghan de Kaboul.
On est inquiet pour nos libertés. Si les talibans n'obtiennent pas la reconnaissance internationale, comment vont-ils conduire ce pays et développer l'économie? Dans 5-6 mois, il y aura plus de pauvreté et la pauvreté entraîne les maladies.
L'Afghanistan célèbre aujourd'hui, 19 août, son indépendance sur les Britanniques en 1919. Le médecin craint à cette occasion de nouvelles manifestations contre les talibans qui veulent changer le drapeau afghan. Manifestation durement réprimée hier.
Mathilde Dehimi, les Afghans qui vivent donc dans la peur et la tension. Hier, 3 personnes ont été tuées à Jalalabad, à 150 km de Kaboul. Les talibans ont ouvert le feu sur des habitants lors de manifestations. Ils tentaient d'hisser le drapeau national afghan. Non loin de là, dans la vallée du Panjshir, une image dans la presse montre la résistance qui s'organise. On y voit l'ex-vice-président afghan, Amrullah Saleh, et Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda à leur côté. Plusieurs milliers d'hommes prêts à résister. Cette région du Panjshir, ancien fief du commandant Massoud, n'est jamais tombée aux mains des talibans, Julie Pietri.
Le lion du Panjshir, c'était le surnom du commandant Massoud qui avait fait de cette zone escarpée, très difficile d'accès, une forteresse imprenable. Mais son fils et ses alliés réussiront-ils aujourd'hui à en faire une base solide de la résistance? Gilles Doron Soro, professeur de sciences politiques, spécialiste de l'Afghanistan, doute que cela suffise.
C'est complètement illusoire. Pour une raison, c'est que Massoud avait étendu sa base, son soutien, bien au-delà du Panjshir, donc toute une partie du nord. Aujourd'hui, les talibans ont conquis tout le nord de l'Afghanistan. C'est-à-dire que c'est un cul-de-sac. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les talibans sont un mouvement beaucoup plus organisé qui, après avoir pris les bases militaires et tout le matériel américain, sont suréquipés.
Il n'y a pas non plus, dit-il, de chef avec un génie stratégique, un impact politique comparable au commandant Massoud. Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, Institut de Recherches Internationales et Stratégiques, s'interroge également.
Il y a une volonté qui existe de la part d'Ahmad Massoud. Maintenant, moi je pense que tout dépend des talibans.
En clair, si les talibans se lancent dans un exercice du pouvoir tyrannique, alors tout sera peut-être possible. Dans le cas contraire, l'organisation d'une résistance dans un pays épuisé par près de 40 ans de guerre lui paraît compliquée à imaginer.
Julie Pietri. Dans le Var, le plus grave incendie depuis 20 ans n'est toujours pas maîtrisé ce matin. Même si la sécurité civile espère avoir une fenêtre aujourd'hui pour améliorer la situation, déclare son porte-parole Alexandre Joissard chez nos confrères de France Info. Hier, deux victimes ont été découvertes sur la commune de Grimaud. Une femme de 32 ans, originaire de l'Essonne, venue passer quelques jours dans un gîte. Et le propriétaire de ce gîte, âgé de 54 ans. Au bilan humain s'ajoute également un bilan écologique. Sur les 7000 hectares parcourus par les flammes, 5000 sont entièrement ravagés. Les feux qui laissent également des traces dans l'atmosphère à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres. Des particules de carbone issues de ces feux flottent jusque dans le ciel d'Île-de-France où les chercheurs du CNRS ont pu les observer cette semaine à l'aide d'un ballon de mesure météo envoyé à 35 kilomètres au-dessus du sol. Reportage à Uri en Seine-et-Marne, signé Célia Kiré.
C'est parti. On a eu un lancement avec un petit peu de vent.
Maintenant, on ne peut plus rien faire. On ne peut que regarder les données.
Le ballon s'élève assez vite. En 30 minutes, il est déjà à 10 km au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Ce ballon transporte un outil météo compteur d'aérosol. À terre, Jean-Baptiste Renard, chercheur au CNRS, le suit en temps réel sur son écran. Il détecte très vite des particules de carbone à des taux inhabituels.
Là, dans les quelques mesures, on est à 3 km. C'est sans appel. Il y a des particules de carbone en quantité significative. Plus faible qu'une pollution en plein cœur de Paris, mais il y a des particules carbonées dans l'atmosphère à 3 km. Et ça, c'est forcément les feux de la Méditerranée qu'on voit. Par les vents, on a des bouffées de ces particules qui survolent la France.
Le ballon continue son ascension. La température descend jusqu'à moins 50 degrés. Lors d'un précédent vol, ce chercheur a déjà pu détecter des particules issues des feux de Californie ou même de Sibérie. Leur chemin peut être tracé par satellite. Elles peuvent rester dans l'atmosphère plusieurs mois.
Ça peut faire comprendre que quand on a un feu quelque part, il peut être transporté sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. N'oubliez pas que toutes ces particules, elles vont retomber fatalement. Sur Terre, sur les océans, ça va faire du carbone qui va se disperser. On peut même, dans certains cas, retrouver ces particules de carbone sur les pôles et sur les glaces.
L'effet des incendies est donc loin d'être anodin. Ces particules de carbone peuvent même contribuer à la fonte des glaciers.
Célia Kiré.
La Martinique et la Guadeloupe attendent de nouveaux renforts de soignants.
Ils doivent arriver demain en plus des 120 infirmiers, aides-soignants et médecins venus prêter main forte dans les hôpitaux saturés de malades du Covid-19. Une dizaine de malades attendent d'être évacués vers la métropole. La Polynésie française est également débordée par l'épidémie. Le taux d'incidence a atteint 2600 pour 100 000 habitants. Les autorités ont donc décidé d'étendre le confinement à tout le week-end. Des mesurettes pour Patrick Galenon, le secrétaire général du syndicat CSTPFO. Il répond à nos confrères de Polynésie la première.
La Polynésie se meurt et on vient de nous donner des mesurettes. Vous pensez que le virus va circuler que le samedi et les dimanches ? Mais tous les jours, il circule dans les écoles, il est en train de circuler. Il y a des adolescents qui commencent à être très gravement malades. Il faut avoir des armes comme il faut pour faire la guerre. Donc il faut confiner aujourd'hui, c'est ce qu'on a demandé au syndicat, on a demandé 15 jours de confinement strict et pendant 50 jours, vacciner le plus de personnes possible.
Mais il n'y a plus d'argent dans les caisses.
C'est pas une question d'argent, c'est une question de vie.
Mais qui paiera les indemnités de ces salariés?
On verra plus tard. 15 jours, c'est 15 jours de vie.
Et seul un Polynésien sur trois est vacciné aujourd'hui en France. 40 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées. S'est réjoui hier soir le Premier ministre Jean Castex.
7h39, l'association L214 publie de nouvelles images chocs.
Des images et un témoignage d'un ancien employé d'une exploitation d'élevage porcin dans l'Yonne qui apparaît à visage découvert et qui raconte les agissements atroces contre les bêtes. Maxime Debs.
Je suis Grégory, j'ai travaillé à la porcherie des Tremblay 2. Je suis lanceur d'alerte.
Il raconte 2 mois et demi sur l'exploitation, les cauchemars la nuit, les séances nécessaires de psy derrière. Calvaire, on ne pouvait plus laisser faire.
Ce qui m'a choqué, c'est de voir le responsable mettre des coups de tournevis acharnés sur les truies quand elles ne voulaient pas avancer. Ou alors mettre des coups de barre en ferraille sur la tête.
Les images insoutenables témoignent du sort réservé aussi aux porcelets.
Il y en a un qui boite, ben ils le prennent, ils le claquent par terre. Et des fois, ils le claquent par terre, ils le mettent dans le seau, puis il est encore vivant. 2 heures après, on le voit dans le seau qui bouge.
En 2 ans, dit-il, aucun contrôle. Il décide donc de s'en remettre à L214, le cofondateur de l'association, Sébastien Arsac.
Le lanceur d'alerte, lui, demande à ce que l'élevage ferme. Par ailleurs, on demande à ce que les services vétérinaires, garants du respect de la réglementation, inspectent très rapidement cet élevage et le sanctionnent. Au moins que la réglementation, même si elle est minimale, soit respectée.
Une plainte pour sévices graves a été déposée par L214. Quant aux responsables de l'exploitation, nous avons tenté de les joindre sans y parvenir.
Maxime Debs et ses images très dures sont à voir si vous le souhaitez sur franceinter.fr.
À Marseille, une fusillade coûte la vie à un enfant de 14 ans hier soir dans la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de la ville. Un deuxième enfant du même âge a été blessé par les balles et un troisième de 8 ans égratigné par les tirs, mais sans gravité cette fois. Et pour finir, quelques notes de Route du Rock, festival qui revient cette année sous une forme inédite. Le traditionnel lieu du fort de Saint-Père est délaissé pour des concerts hors les murs dans 4 communes de la côte d'Emeraude en Bretagne. Cyril Ardot, pour survivre à la crise et aux mesures sanitaires, le festival a su se réinventer.
En tête d'affiche, la femme qui jouera samedi à quelques mètres de la plage au château de Saint-Malo. En termes de programmation, la Route du Rock reste fidèle à elle-même avec une majorité de groupes indépendants. Pour le reste, il a fallu tout réinventer ou presque, mais cette édition hors les murs permet de toucher d'autres publics. François Floret, le directeur du festival.
Un nouveau public qui viendra découvrir ce qu'est la Route du Rock, parce qu'en plus, les 3/4 des concerts sont gratuits. C'est plus facile de se décider et de prendre un risque, entre guillemets, qui n'est pas financier.
Des jauges réduites, le pass sanitaire demandé à l'entrée et une programmation composée exclusivement d'artistes français ou vivant en France. Une 20aine au total, dont l'envoûtante Lisa Leland à Cancale. Ou encore François and the Atlas Mountains, vendredi à Saint-Malo.
Il y en aura toutes les sauces. Des morceaux qui bougent, des morceaux contemplatifs. Coucou, comment
vas-tu ? François-Marie, le leader du groupe, avait besoin de retrouver le public.
De voir des gens autour de soi qui bougent, qui swingent dans le tempo et tout, c'est quand même une expérience dont on a besoin. En fait, il y a un peu une famille autour du monde des festivals. C'est super de pouvoir les retrouver.
Et pour l'année prochaine, la direction du festival espère enfin organiser la grande édition anniversaire des 30 ans. Attendu depuis plus de 2 ans.
Cyril Ardot, le rock donc sur la route cette année, c'est jusqu'au 22 août.
Et c'était le journal de Julie Paco, à suivre l'édito Écho.